Et peut-être pour éclairer ce regard qui va aller chercher toujours plus loin, faut-il revenir à un trait de votre biographie, puisque c'est peut-être un paradoxe pour un Suisse, mais vous avez été marin dans votre jeunesse à Lintaner.
C'est un faux marin.
Mais tout de même, c'est une expérience qui, me semble-t-il, a été tout à fait déterminante, parce que peut-être c'est une source importante de votre imaginaire, parce que la mer, c'est une invitation à la rêverie.
Oui. Bon, j'ai des origines. Mon grand-père était fils d'un grand armateur de Trieste, à l'époque de l'Empire austro-hongrois, puis émigré aux États-Unis, où ma mère est née, du reste. Donc j'ai des origines, et puis j'ai des origines également du sud de la France, côté paternel, etc. Mon père était un félibre, appartenait au Félibrige, c'est-à-dire ce groupement d'écrivains provençaux. Il était écrivain, entre autres choses, entre autres mille choses, il travaillait 16 heures par jour à plein de trucs. Donc, c'est vrai que moi, je connais rien aux Alpes. Je pourrais jamais filmer une histoire dans les Alpes, parce que j'y comprends rien du tout, et puis j'aime pas ça. Et c'est vrai que j'appartiens beaucoup plus au monde méditerranéen qu'au monde alpin. Avec la nécessité de partir à un moment donné, nécessité vraiment physiologique, biologique, de sortir de ce minuscule territoire. Donc j'étais attiré, c'est vrai, par la mer, mais c'était pas évident non plus. J'avais 22 ans, j'ai fait des stages sur des bateaux algériens à une époque. Et puis, à 22 ans, je me suis embarqué dans la marine suisse.
Et c'est une expérience que vous racontez, que vous relatez dans un documentaire. Mmh. Alors, qui est un documentaire un peu particulier, parce que il est à la première personne, et puis il a un caractère complètement autobiographique, c'est Les Hommes du Port.
Oui, oui, ça c'est une commande. C'est un producteur français qui avait préparé une série de 6 films pour la télévision, pour la 7 Arte, sur les grands ports du monde, et il souhaitait les faire tourner par des réalisateurs de fiction. Il appelait ça des fictions documentaires. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais enfin, il avait proposé à, je ne sais pas, à Ken Loach de faire Liverpool. Enfin, chacun pouvait choisir son port. Il avait demandé à Kiarostami de trouver un port en Iran. Yoseliani devait faire Odessa. Et puis, ça ne s'est pas fait pour finir. Mais moi, j'étais, le premier à avoir un projet à peu près prêt. Et puis, Thierry Garrel, à la 7, m'a dit, faites-le. Même si la série se fait pas, faites-le. Et moi, j'avais choisi Gênes, donc, puisque c'était une ville où j'avais habité dans ma jeunesse. Pas tellement parce que je voulais parler de moi. C'était le contrat, c'était la commande, c'est-à-dire qu'on devait entrer dans un port par quelque chose de complètement subjectif. C'est-à-dire soit par, la vie de sa famille, de ses ancêtres qui venaient de là, ou par la littérature, même si on avait un livre fétiche qui se passait dans un port, ou par ses expériences personnelles. Donc moi, comme j'avais vécu là-bas, et j'avais eu connaissance à l'époque de ce milieu des dockers, qui étaient plutôt les ennemis des gens pour qui je travaillais, cette compagnie des dockers de Gênes. Alors j'ai creusé un peu le problème et je me suis dit, je vais faire un film là-dessus. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Donc je me suis dit, si je vais à Gênes, bon, j'entre sur mes traces 40 ans plus tard.
Parce qu'au-delà du côté commande de ce film, on sent en voyant ce documentaire, il y a une véritable histoire entre vous et ces hommes du port, les dockers.
Tout à fait. Eux l'ignoraient. Non, c'est vrai que je connaissais cette compagnie, je savais ce qu'ils faisaient, je n'avais pas vraiment creusé le problème. Et là, je me suis dit, ça va être une occasion. Bon, je vais retourner dans la trace de mes pas d'il y a 40 ans, mais je vais tout de suite arriver là où j'étais à l'époque. J'étais coursier sur le port, je portais des papiers, des bureaux jusqu'au bateau, etc. Papiers de douane ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de raconter ça. Ça, je peux juste le prendre comme entrée en matière. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de la compagnie des dockers. Voilà.
Et c'est vrai que les Alors, beaux-pères, c'est une caste un peu particulière.
Ah oui, tout à fait.
Mais on sent vraiment dans ce documentaire que ce sont des gens que vous aimez.
Ah oui.
Non, peut-être pas... aussi parce que ce sont des poètes. Ils ont une relation avec leur métier, mais c'est plus qu'un métier,
en fait,
qui est si fort que ce sont des gens qui sont complètement impliqués dans ce qu'ils vivent.
Ils sont comme... J'avais fait en 64 ou 5, je ne me souviens plus, un documentaire sur les mineurs du Pays de Galles. Et j'ai retrouvé le même esprit. Sauf que là, alors, il s'est passé quelque chose de tout à fait différent. C'est que les dockers du port de Gênes, qui étaient jusqu'à 10 000 dans les années 60, ont pris le pouvoir sur le port, complètement. Ça a été un des seuls lieux où le communisme a jamais existé. Ça a été le port de Gênes pendant 50 ans. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir. Ça a été un système coopératif de pure autogestion. Qui a complètement fonctionné et qui a, alors c'est là que je dis que le communisme a existé, quand ils disaient qu'ils allaient transformer l'homme et qu'on voit la Russie d'aujourd'hui, ils n'ont pas transformé grand-chose, eux ont transformé l'homme, ont transformé par l'appropriation totale de leur, la maîtrise totale de leur travail, ça a été la maîtrise totale de leur vie et de la vie des leurs, etc. Et quand vous avez un vieux docker à la retraite qu'on emmène sur le port en balade, etc., et qui regarde les docks et les bateaux et qui dit « Moi, j'ai été 40 ans à l'université. Je n'ai fait que d'être un étudiant universitaire en étant docker, qui est un métier dur, dangereux, etc. » Et quand on leur dit « Oui, mais c'est un métier dur », ils disaient « Non, c'était un divertissement, le travail. Le travail, c'était un divertissement. Le métier, c'était de vivre. » C'était de vivre avec nos familles, avec nos collègues. Ils ont fait des coopératives de logement. Ils ont complètement maîtrisé leur vie à travers la maîtrise de l'outil de travail.
Mais c'est vrai que vous avez un véritable attachement pour ces hommes du port. Et puis, de surcroît, moi, je trouve que vous parlez très bien de la mer dans ce documentaire Alain Tanner. Il y a des phrases que moi, j'ai retenues. Vous dites qu'elle est un espace-temps mental... et un mouvement dans la perte.
Tout à fait. Bon, ça, c'est mon côté un peu... Moi, je suis un rêveur. Je ne suis pas du tout un homme pratique et je ne suis pas du tout un actif. Malgré que j'ai fait pas mal de trucs, mais je ne me sens pas du tout comme un actif. Je ne suis pas quelqu'un qui a taillé dans le vif de la vie comme ça. J'ai toujours été un peu rêveur. Du reste, j'ai même l'impression que j'ai rêvé ma vie. Et que quand vous me montrez une liste de films, je dis, c'est moi qui fais ça, je sais pas, c'est un autre. Mais on est tous doubles, peut-être. Et mon double, c'est vrai qu'il est sur la mer. Et il est cet espace-temps mental qui est complètement différent du temps de la Terre. Et surtout, alors, moi, j'ai jamais fait de course à voile ou de trucs comme ça. C'était, pour moi, c'était un monde, c'était les laboureurs de la mer. C'est-à-dire, c'était des travailleurs de la mer. Les gens avec qui j'étais, c'était les marins sur les cargos, tout simplement. Mais que c'est vrai que c'est un espace-temps mental et qui va vers la perte. On a l'impression, quand on part et qu'on se dit il y a 10 jours ou 15 jours de mer devant nous, qu'on va vers le nulle part, qu'on est complètement dans un autre espace. Et que cet espace, c'est un espace pour se perdre.
Alors bien sûr, on ne peut pas s'empêcher d'établir un lien entre ce documentaire « Les hommes du port » et puis un film, une fiction, cette fois-ci, qui l'a précédé de plus de 10 ans, qui est un de vos films les plus connus, parce qu'il a, entre autres, reçu le César du meilleur film francophone au Festival de Berlin en 1983. Et c'est Dans la ville blanche, dont le premier plan se passe dans la salle des machines d'un gros bateau. Mmh. Et c'est l'histoire d'un marin.
C'est l'histoire d'un marin suisse.
Et là, on vous retrouve.
Non, c'est par hasard, c'est parce que Bruno Ganz est suisse. Qui jouait le rôle, donc je me suis dit, c'est un marin suisse, sa femme est en Suisse, sa femme est à Bâle, sur les bords du Rhin. Oui, alors ça, c'est ma casquette du rêve. C'est-à-dire que toute la même dans les autres films, il y a une démarche qui est beaucoup plus poétique que narrative. Alors là, elle est complètement poétique. Ça, c'est la part du rêve où il n'y a plus trace d'idéologie ou de rapports sociaux, économico-politiques, etc., qui peuvent se trouver dans les autres films. Et c'est un film que j'ai fait dans une espèce d'état second, dans la mesure où j'avais été très malade et que les effets de la narcose duraient une année pratiquement. à la suite d'une opération, et que mon ami Paolo Branco, qui est le plus grand producteur du monde aujourd'hui, établi à Paris et à Lisbonne, qui a 46 ans, a produit plus de 100 films, avec qui je travaille depuis cette époque, qui m'avait dit un jour, viens faire un film à Lisbonne. Je me souviens très bien, on se croise sur un trottoir du Festival de Cannes, tout le monde court à ses affaires, etc. Et il me dit, viens faire un film à Lisbonne, j'ai des équipes, j'ai tout ce qu'il faut là-bas. Et je dis, ouais, bon, je vais faire un film à Lisbonne, je sais pas quoi faire à Lisbonne. Puis ensuite, bon, je suis tombé malade et j'étais un peu dans le cirage, comme on dit, hein, longtemps après même. Et j'étais en convalescence, j'allais pas très fort, je faisais 50 kilos. Et puis je me suis dit, il faut vraiment que je me prenne en charge, il faut que je fasse quelque chose, parce que je pouvais dire aussi, bon, je peux plus tourner, je peux plus travailler, etc. Ce qui était absurde, mais... Donc, je me suis mis à rêvasser un projet. Je me suis dit, tiens, Paolo m'a dit, viens faire un film à Lisbonne. Qu'est-ce que je fais à Lisbonne? Je peux pas faire un film je peux pas faire un film portugais. Je parle pas la langue, je connais pas leur culture, leur littérature, je connais pas le Portugal, à part quelques brefs séjours à Lisbonne. J'ai dit, ben oui, si c'est un marin qui débarque, j'ai le droit. J'ai le droit parce qu'il est un étranger, il débarque pour la première fois là, il se balade, etc. Donc j'ai dit à Paolo, j'arrive. J'arrive avec Bruno Ganz sous le bras, pas de scénario. Pas de scénario, simplement une espèce de rêve. Donc on a tourné dans l'ordre chronologique de l'histoire, parce que quand on n'a pas de scénario, on est obligé, on peut pas commencer par la fin, etc., parce qu'on la connaît pas, la fin. On a tourné dans l'ordre chronologique, c'était extrêmement dur. Pour moi, pas pour les autres, pour moi, parfois pour Gantz aussi, cette espèce de rêve.
Et c'est l'histoire d'un marin et d'une caméra 8 mm qui débarque à Lisbonne.
Ouais,
c'est les deux, parce que le marin...
C'est l'histoire d'un marin et d'une ville, surtout.
D'une ville, mais la ville, il la capte par l'œil d'une caméra.
C'est ça, le personnage central du film, c'est cette ville, en fait, qu'il ne connaît pas, dans laquelle il débarque et dans laquelle il décroche.
Dans laquelle il s'autorise le rêve, justement.
Il déstabilise le temps et l'espace.
Mmh. Ouais.
Complètement.
Oui, parce qu'il dit que...
Il s'enferme dans une chambre d'hôtel pendant 8 jours.
Voilà.
Ce que j'ai fait pour voir ce que ça donnait. Essayer, c'est très dur. Sans journaux, sans radio, sans télévision, et sans sortir. En vous faisant monter un sandwich quand vous avez faim, etc. C'est très très dur comme exercice, simplement en regardant par la fenêtre. Et ça, c'est une façon effectivement de déstabiliser. C'est très périlleux, c'est vraiment se mettre un peu en danger. Moi, je l'ai fait à Lisbonne pour voir ce que c'était avant de faire le film. Hein, puis le film, je commençais. Bon, j'avais pas de scénario, mais j'avais des notes. J'avais 3 pages de notes en fait sur ce qui allait se passer. Et puis on a tourné ensuite. Et quand j'ai fini le film, je me suis dit, c'est une absurdité totale. Personne n'ira voir ce truc. C'est complètement insensé. Je filme l'intérieur de mon crâne. De quel droit, pourquoi, comment, etc. Et puis c'est un ami psychiatre qui m'a... Le film a eu un gros succès. Ce que j'attendais pas du tout, c'est un ami psychiatre qui m'a dit... moi je comprends très bien pourquoi il a du succès. C'est une chose à laquelle tout le monde rêve. C'est de couper avec le réel, de s'échapper dans un espace-temps complètement différent, c'est ce que tout le monde aimerait faire.
Oui,
sans même qu'il le sache.
Ce que vous osez montrer et mettre en scène toute la durée d'un film, c'est un véritable exercice de liberté que s'accorde un homme.
Oui, mais la liberté, il n'y a rien de plus difficile.
Il dit « je ne fais rien, je suis libre ».
Oui, il fait rien.
Ne rien faire, c'est difficile.
Oui, il dit « je ne suis pas en vacances ». En vacances, on organise
absolument
son temps. Moi, je ne fais rien.
Et il plonge dans cette
blancheur, voilà,
de la ville, de la parole, du silence plutôt.
Oui. Oui. Le silence est blanc, la mémoire est blanche.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est un exercice périlleux que vous montrez ça.
Tout à fait périlleux. Moi, je ne suis pas ressorti complètement indemne.
Mais c'est vrai que le marin Bruno Ganz, dans le film, restitue sur Terre, en ville, cet exercice de la rêverie absolue que l'on prête volontiers aux hommes de la mer, mais il le transpose dans les rues d'une ville.
Tout à fait, oui. Ceci dit, les hommes de la mer, les marins marchands, moi j'en connais beaucoup qui ne sont pas des rêveurs, alors, qui sont désespérés d'être sur la mer.
Parce qu'ils vivent sur des usines flottantes.
Ils se sont engagés parce qu'ils habitent Gênes ou ils habitent Rotterdam ou je ne sais pas, et puis que c'est, leur père était marin, puis que c'est les métiers qu'on fait dans ces circonstances-là. Et après 10 ans, ils n'en peuvent plus.
Alors avec les hommes du port et puis dans la ville blanche, vos films se sont déplacés vers la mer, mais pas seulement vers la mer, Alain Tanner, également vers l'Europe du Sud. Et il se trouve que, soudain, dans plusieurs de vos films, on va se retrouver en Europe du Sud. Il va y avoir l'Espagne, avec notamment L'homme qui a perdu son ombre, avec le journal de Lady M aussi. Il va y avoir l'Italie, avec La vallée fantôme. Tout récemment, il y a Marseille, avec Jonas et Lila à deux mains. Donc, il y a cette Europe du Sud qui semble vous attirer profondément, comme oui. Si c'était une source, là, de... liberté.
Non, c'est un goût pour ces lieux-là. Moi, je suis un peu un cinéaste du lieu, c'est-à-dire que je ne peux pas filmer si le lieu ne convient pas.